Oui, c'est ça. Moi, je travaille donc dans l'association La Maison de la Loire, qui est une association qui a pour objectif de faire découvrir le fleuve, pour pas répéter Loire. On a différents moyens de faire découvrir le fleuve, soit par en proposant des animations donc pour les groupes grand public, avec un programme trimestriel de rendez-vous. Et puis la grosse activité des animations, c'est surtout avec les écoles. Puisqu'on reçoit à peu près 4 à 5 000 enfants quand même par an, aussi bien des classes d'Indre-et-Loire que d'autres départements. Donc pour découvrir le fleuve, on a plusieurs thématiques. Ça va de l'observation des oiseaux à l'observation également des traces d'animaux, sans oublier les castors, les ragondins. Et puis on a aussi des thématiques qui sont plus sur la dynamique du fleuve avec la formation, le déplacement des bancs de sable et puis aussi bien sûr le risque inondation qui fait partie voilà, de nos activités d'animation.
On parlera des événements que vous proposez régulièrement en deuxième partie d'émission, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi travailler déjà pour une structure comme ça? Est-ce que vous-même vous êtes passionné par ce fleuve et par le milieu, cet écosystème?
Mais oui, carrément, j'allais dire, puisque ça fait une vingtaine d'années que j'y suis. J'ai commencé à l'époque en faisant mon service national en tant qu'objecteur de conscience. Donc c'est là, bon, j'étais étudiant à la fac à Tours en sciences de la vie et sciences de la terre. Et donc c'est là que j'ai appris à découvrir ce fleuve que bon je connaissais déjà un petit peu puisque je suis ligérien de naissance on va dire. Et puis après au fil des années on a eu des emplois aidés qui se sont créés donc comme quoi c'est utile les emplois aidés souvent. À l'époque c'était les emplois jeunes. Donc ce qui a permis de créer l'activité aussi d'animation de la Maison de la Loire, lancer beaucoup d'animations, enfin de thématiques qu'on a actuellement, et puis bon, on en crée encore de nouvelles. Et puis tout ça a débouché après sur un emploi en CDI. Et donc voilà, forcément il y a la passion, voilà, il y a toujours à dé enfin, ce que moi j'aime bien sur la Loire, c'est qu'il y a toujours à découvrir.
Oui, voilà, c'est ça, c'est que à force, plus on se spécialise ou plus on s'expertise, dans le sens où, évidemment, avec les années, on a l'expérience de la Loire et puis de la faune et de la flore qui vient avec, et plus on prend du plaisir aussi à faire ça.
Oui, on est spécialiste, on connaît quand même le fleuve, hein. Mais on n'est pas des experts dans tel ou tel domaine. Le but du jeu, en fait, c'est de rencontrer des gens justement qui sont experts en insectes, en dynamique du fleuve, des chercheurs, des professeurs. Et puis après, donc, c'est de le mettre, essayer de mettre ce langage, des fois un peu difficile pour le grand public, enfin, essayer de faire passer le message en simplifiant les choses. Mais avant de les simplifier, il faut bien évidemment les connaître.
31 ans cette année, l'association, elle a fêté ses 31 ans, c'est ça, 1986. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette création finalement? Qu'est-ce qui a motivé la création d'une structure comme la Maison de la Loire et évidemment de défendre finalement l'écosystème de la Loire?
Voilà, en 86, la Maison de la Loire a été créée par un contrat de plan à l'époque entre l'État et l'association. En fait, c'était pour répondre à deux visions de la Loire, en fait. Une vision qui était prônée par le maire de Tours à l'époque, Jean Royer, qui était plus sur l'aménagement du fleuve avec la construction de barrages. Et puis une vision qui pensait que en fait ça serait quand même très difficile d'aménager le fleuve et surtout qui voulait défendre la diversité, la biodiversité qu'il y avait tout autour du fleuve. Alors pas seulement pour les animaux hein, ou les plantes, mais aussi pour l'homme, puisque en défendant la biodiversité, on défend aussi la qualité de l'eau et l'eau qu'on boit, enfin notamment à Tours et sur toutes les villes ligériennes, elle provient en grosse partie de la Loire. Donc l'idée, voilà, c'était de créer un peu un peu en opposition à l'époque, enfin pas qu'un peu, hein, en opposition avec notamment Loire Vivante, des associations très militantes qui ont défendu le fleuve. C'était de créer quelque chose pour faire découvrir le fleuve d'une autre manière. Et donc ça s'est fait petit à petit, au départ par des expositions, puis après des animations qui pour emmener les gens découvrir le fleuve ou le redécouvrir.
Il y a 5 maisons de la Loire en tout, en région Centre-Val de Loire. Encore une fois,
Oui.
ça fait beaucoup de Loire. Donc c'est vraiment Enfin, c'est vraiment quelque chose d'ampleur au niveau régional. C'est pas spécialisé et pas. Enfin, ça reste pas cantonné à Montlouis-sur-Loire.
Non, 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 puisque donc oui, 5 maisons de Loire, une par département, deux dans le Loir-et-Cher. Et on a chacune, alors toutes sont des associations, et on a chacune nos spécificités et de plus en plus de points communs. Et donc on s'est réunis en fédération il y a quelques années, j'ai oublié la date, et donc avec sur des projets, des financements régionaux. Donc là, actuellement, on a vraiment une fédération qui vit. On travaille entre salariés des différentes maisons de Loire sur certains projets, notamment le risque d'inondation. Après, il y a des maisons de Loire qui ont des bateaux pour naviguer. Bon, à Montlouis, c'est pas le cas, parce que déjà le site le permet pas forcément, et puis il y a d'autres associations qui le font très bien. Voilà, l'idée, c'est d'échanger aussi entre animateurs, de partager les expériences d'animation. Donc maintenant on peut retrouver des découvertes du castor sur toutes les maisons de Loire. Enfin voilà, c'est...
Est-ce que ça répond à une demande à la base de personnes qui voulaient finalement découvrir ce fleuve qu'on connaît plutôt mal d'ailleurs, puisqu'on parle souvent du Rhône et de l'axe finalement Rhône-Alpin, mais beaucoup moins de la Loire qui est peut-être moins mis sur le devant de la scène, quoi.
Oui, mais c'est vrai que enfin, au 19e, fin 19e siècle, les gens s'étaient un peu détournés de la Loire, même les villes, avec la disparition du transport des marchandises, des bateaux, toutes les villes étaient tournées vers les gares. Donc on avait même tendance à oublier le fleuve. Et puis dans les années, voilà, 80, 90, surtout avec l'inscription de la Loire après dans les années 2000, au patrimoine mondial de l'UNESCO, là, beaucoup de gens ont redécouvert le fleuve. Les villes se sont aussi réappropriées les bords, par exemple la Guinguette à Tours. Enfin voilà, il y a plein d'événements maintenant qui se passent à côté ou dans le fleuve. Donc la Loire est redevenue à la mode aussi, peut-être parce que les gens aussi ont besoin de sortir pas très loin de chez eux. C'est vrai que sur la Loire, on peut trouver des choses quand même très, très, très contrastées, sans aller très loin.
Et puis, il faut aussi dire que la Loire traverse finalement les départements de France un peu, je dirais, parfois un peu isolés. C'est vrai que le Rhône, il est vraiment sur l'axe principal français. La Loire, à titre de comparaison, fait quand même une boucle dans dans la diagonale du vide, ce qu'on appelle ça un peu vulgairement la diagonale du vide. Donc peut-être aussi que
Comment ça, du
ça.
vide?
Non, évidemment, parce que on parle ici de la Loire à Montlouis-sur-Loire, mais il faut s'imaginer que c'est un énorme fleuve, plus de 1 000 km. On en reparlera tout à l'heure avec quelques chiffres, mais c'est aussi l'immensité de ce fleuve qui fait sa richesse.
Oui, puis la diversité des paysages, c'est vrai que depuis le Mont-Germier-des-Joncs jusqu'à l'estuaire à Saint-Nazaire, il y a quand même, on peut décomposer en trois parties, entre la Haute-Loire, la Loire moyenne chez nous, et puis la Basse-Loire, avec des paysages différents. Alors c'est vrai que la communication entre Ligériens, donc ceux qui habitent sur les bords du fleuve, est peut-être pas forcément évidente, parce que bon, on n'a plus de bateau, et puis elle est encore moins navigable qu'à l'époque où elle était naviguée. Même si elle était difficilement navigable, même à l'époque. Même nous, entre Maisons de Loire, pour se retrouver, il faut tout de suite faire 2 heures ou 3 heures de route. Si on, enfin voilà, c'est pas l'axe de communication est effectivement moins évident que sur l'axe Rhône.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la Loire a de particulier?
Oui, alors enfin, ce qu'on appelle les alluvions de la Loire, en fait, il y a trois catégories d'alluvions. Il y a les graviers qui sont enfin, pour parler très simple, des cailloux centimétriques. Il y a le sable, le fameux sable de Loire, qui est là des grains plutôt millimétriques, qui est le résultat de l'érosion d'ailleurs des graviers avec les crues de la Loire, l'eau qui transporte tout ça, hein, depuis certains graviers depuis le Massif central. Et puis les fameux limons, qui sont plutôt de la matière organique en suspension, des argiles, des matières très fines. Et donc effectivement, sur la Loire, on va retrouver les trois. Et quand la Loire est en crue, d'ailleurs, je cherche la dernière fois qu'elle est en crue, là, elle est basse quand même depuis plusieurs mois. Donc après la crue, donc le niveau de Loire va baisser et vont se déposer justement tous ces limons sur lesquels on peut quand on marche, glisser ou laisser les empreintes, ses empreintes ou celles des animaux. Donc effectivement, il y a une grosse quantité de limon sur la Loire, et même beaucoup plus après au niveau de l'estuaire, puisqu'on a même ce qu'on appelle le bouchon vaseux.
Alors, et du coup, ça a une incidence aussi sur la, enfin, la biodiversité, la faune, la flore, j'imagine.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est ce qu'on va appeler le biotope, la matière qui n'est pas vivante. Donc sable, gravier, donc qui vont se déplacer, se déposer quand les eaux sont plus calmes. Et bien évidemment, ces éléments-là vont provoquer, vont permettre la différente vie de s'exprimer. Aussi bien au niveau des plantes que des animaux. Peut-être une des emblèmes du fleuve, enfin au niveau des oiseaux, c'est les sternes, des oiseaux migrateurs qui arrivent chez nous au printemps pour se reproduire justement sur ces fameux bancs de sable, puisque elles ont besoin de gravier, de zones plutôt de gravier, pour faire leur nid directement au sol. Donc si on n'avait pas ces zones-là, elles ne pourraient pas se reproduire sur la Loire. Et donc on a deux espèces, la sterne Pierre Garin et la sterne naine. Et la sterne naine, elle ne se reproduit quasiment plus qu'en France sur la Loire, sur les îlots sableux.
Donc ça reste vraiment encore un cœur de biodiversité, ouais, presque intact, ou en tout cas très peu altéré.
Il faut arrêter de... souvent on dit la Loire est sauvage, alors si on prend la définition stricte du terme sauvage, c'est sans intervention de l'homme, sans empreinte de l'homme. En fait, l'homme est partout, hein, dès qu'on regarde d'un peu plus près. Ne serait-ce que par la construction des digues élevées déjà, pour canaliser le fleuve et se protéger, enfin des petites crues en tout cas. Et puis après, si on commence à regarder dans l'eau, tous les éléments qui sont dans l'eau, tout ce qu'on rejette, nos déchets. Si on regarde, on a exploité le sable de manière très importante après la guerre, jusque dans les années 1990. Donc forcément, la marque de l'homme, elle est partout. Dans les espèces de plantes, certaines plantes dites exotiques envahissantes, elles sont ramenées par l'homme directement ou indirectement. Donc l'homme est vraiment présent partout. Alors ceci dit, la Loire, nous on aimait bien employer le mot sauvage il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs on nous disait, attention, enfin certaines collectivités disaient n'employez pas sauvage, et maintenant ces mêmes collectivités emploient ce mot. Alors que nous on va rester plutôt, on peut l'employer, mais on va plutôt rester sur l'idée d'un fleuve qui est vivant en tout cas, et qui a encore par rapport à d'autres fleuves une diversité animale et végétale qui est très importante.
La Loire, il faut le rappeler du coup à nos auditeurs, elle prend sa source au Mont Gerbier de Jonc, on l'a évoqué tout à l'heure en antenne, dans le Massif Central, en Ardèche, et elle serpente en fait tout le long de la France, et elle se jette dans la mer, dans l'océan pardon, Atlantique, à Saint-Nazaire, c'est ça? Donc ça fait quand même, enfin c'est le fleuve le plus long de France.
Oui, métropolitaine. En tout cas, oui, ça fait 1012 km entre 1012 et 1020, parce que sur les ouvrages, il faudrait la remesurer. Mais un bon 1000 km en tout cas. Donc effectivement, c'est le plus grand fleuve de France. Et
c'est pour ça que ça illustre finalement ce que vous avez dit, c'est que ça a emmené avec le cours d'eau énormément de tonnes de pierres, de cailloux, de sable, etc. Donc, ce qui explique aussi le fait que la Loire est sableuse, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais en tout cas qui comporte une énorme quantité de sable.
Mais oui, parce que depuis le Massif Central à Mont-Louis, enfin, ou à Tours, sur les grèves, les plages de sable, on peut retrouver, en cherchant bien, des petits bouts de pierre volcaniques ou des roches des montagnes, en fait. Donc, on n'a pas de volcan en Touraine, hein, on est vraiment sur des roches calcaires, sédimentaires. Donc voilà, en fouillant dans les graviers, on peut retracer toute la géographie et une partie de la géologie du fleuve.
Vous parliez de l'intervention humaine, que ce fleuve finalement n'est pas si sauvage que ça. Est-ce que c'est une menace, les activités humaines sur la Loire, ou qui ont un rapport avec la Loire? Je pense notamment au château de la Loire. Est-ce que l'activité touristique qu'il y a autour de ces châteaux peut avoir des conséquences sur la pollution du fleuve ou sur la biodiversité qu'il y a autour de ces châteaux?
Je pense pas. En tout cas, si les châteaux de la Loire sont ici en Touraine et en Val-de-Loire, c'est parce que le fleuve a permis de transporter les roches. pour la construction de ces châteaux. Ces époques-là, c'était le meilleur moyen de se déplacer dans le pays. Bon, bien sûr, tout ça a évolué. Alors, la fréquentation touristique, j'allais dire, c'est pas ce qu'il y a de pire, en fait, à mon avis. Bon, les gens restent cantonnés près des châteaux. Bon, nous, on en reçoit certains qui sont contents, justement, d'aller mettre les pieds un peu dans le fleuve pour trouver aussi un petit peu autre chose. Après, on a la fameuse Loire à vélo qui a été construite et qui est plutôt une bonne idée. Après, évidemment, on a peut-être pu la construire un peu autrement ou avec des parcours parfois un peu différents, mais globalement, c'est vrai qu'on avait beaucoup peur à la fréquentation, mais les gens en restent quand même sur la piste. Et puis bon, bah, descendre à certains endroits, évidemment, accessibles, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus.
Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus?
Bah, je vais pas vous le dire, là, parce que... Mais après, les impacts de l'activité humaine, donc il y a déjà eu l'exploitation du sable, qui a eu quand même des conséquences, enfin qui aujourd'hui est arrêté dans le lit mineur, mais qui a eu des conséquences importantes. Je pense localement à l'effondrement du pont de Tours dans les années 1978. Donc le lit s'est enfoncé de 1,50 m à 2 mètres quand même par rapport à l'origine.
Parce
qu'on a enlevé des milliers de tonnes de gravier. En fait, on a enlevé en 40 ans, on a enlevé ce qui se produit à peu près en 400 ans. Donc forcément, ça a eu un impact. Alors non seulement sur les ouvrages anciens construits par les hommes, sur les digues élevées, puisque ça fragilise leur stabilité. Malheureusement, ce qu'on pourrait croire que du fait que le lit s'enfonce d'un mètre, on va être protégé des crues, mais malheureusement non. Et puis, ça a eu des conséquences sur l'écosystème. Les zones de frayère pour les poissons étaient moins inondées. Parce qu'en fait, des crues, il y en a toute l'année, il en faut d'ailleurs. Et donc, il faut des petites crues pour remplir les bras, et du coup, ils avaient plus de mal à être inondés. Donc, certains poissons pouvaient moins se reproduire, je pense aux brochets notamment, enfin, ou d'autres espèces. Donc, voilà. Et puis, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on cherche pas actuellement, c'est-à-dire la pollution de l'eau. Moi, j'en suis rendu. Enfin, ce qu'on voit pas en tout cas.
Alors justement, en août dernier, il y a eu une prolifération d'algues bleues liée à une bactérie qui s'appelle la cyanobactérie toxique qui a été trouvée dans la Loire. Est-ce que vous en avez entendu parler et en quoi cette bactérie est une menace pour la biodiversité de la Loire?
Non, pour la biodiversité, je ne sais pas, mais pour la fréquentation des animaux, des chiens... Ouais. Alors bon, c'est assez compliqué tout ça, évidemment, on a forcément entendu parler. Après, là, on va essayer de se renseigner plus précisément. Mais il y a plusieurs éléments, en fait, qui ont fait qu'il y ait cette bactérie. Alors, pas seulement en Loire, aussi sur le Cher, enfin, d'autres rivières. Déjà, justement, on parlait de qualité de l'eau. Enfin, ce qu'on voit pas dans l'eau, le nitrate est quand même présent de manière très importante. Et le nitrate, ça permet aux plantes de se développer, notamment aux algues. Donc ça, c'est un facteur important, enfin qui a dû favoriser le développement de cette bactérie. On a aussi la présence d'une espèce invasive qui s'appelle la corbicule ou la palourde asiatique, qui filtre l'eau de la Loire, qui la rend très claire. Donc du coup, il y a plus de lumière qui passe, donc les algues pourraient se développer plus. Donc voilà, donc la palourde, la pollution au nitrate. Les coups de chaleur qu'on a eu, parce qu'on a eu 4 pics de chaleur, je crois, cet été. Et puis le fait qu'on n'ait pas d'eau dans la Loire, parce que là, ça fait quand même quelques mois qu'il ne pleut pas ou pas vraiment.
Effectivement, c'est là où je voulais en venir. La plus grosse menace, finalement, c'est l'absence de précipitations et, et la sécheresse qu'il y a eu cet été et qui continue finalement là en début d'automne et d'hiver.
Alors les espèces s'adaptent, hein. L'homme plus difficilement. La menace, enfin pour l'homme, pour le fait qu'il n'y ait pas d'eau, c'est voilà pour les prises d'eau, pour les nappes alluviales dans lesquelles on pompe l'eau de consommation. Et puis surtout pour les fameuses centrales qui sont quand même bien présentes sur le fleuve sauvage, qui ont besoin d'eau pour refroidir les produits du nucléaire.
Du nucléaire. Oui, du coup, j'en suis, je suis tout bouleversé. Qu'est-ce que vous, en tant qu'association Maison de la Loire, vous proposez pour essayer de lutter contre ça? Est-ce que vous sensibilisez finalement votre public sur ces problèmes-là liés à la Loire?
Alors nous, l'objectif de la Maison de la Loire, voilà, c'est de faire découvrir le fleuve, donc justement, de prendre en compte le plus d'éléments possible. Il ne faut pas avoir un regard unique suivant les intérêts personnels qu'on a. Donc l'idée, c'est de faire découvrir voilà, les différentes facettes du fleuve. Et après, c'est aux gens de se faire leur avis, on va dire. Après, on n'est pas une association militante, on est vraiment une association d'éducation à l'environnement. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aider les personnes à regarder ce fleuve par plusieurs facettes.
Je vous propose tout de suite, Eric, de faire un petit quiz sur la Loire pour tester un peu vos connaissances. Et
mon
puis,
Dieu.
Je mets le jingle et puis je vous pose quelques questions. Première question, est-ce que vous êtes prêt?
Oui, oui, enfin, si j'ai beaucoup de jokers.
Ça n'a pas l'air. Non, ah bah, non, non, aucun joker. Et éventuellement un, si vous voulez. On l'a dit tout à l'heure, la Loire prend sa source donc au Mont Gerbier de Jonc en Ardèche, mais est-ce que vous pouvez me citer le nom de la commune dans laquelle elle prend sa source?
Ça commence mal, moi je suis pas de la Haute-Loire en plus.
C'est vrai.
La commune... Attends, Mont Gerbier de... Non, je sais pas la commune.
La commune s'appelle Sainte-Eulalie.
Oui.
Voilà. Il faut aussi préciser que le Mont Gerbier de Jonc, c'est 1400 mètres, à environ 1400 mètres d'altitude, donc elle prend sa source en altitude, comme beaucoup de fleuves, hein, d'ailleurs.
Oui.
Deuxième question. Quel est le débit moyen de la Loire à son embouchure à Saint-Nazaire, en moyenne?
C'est le genre de truc qu'on... Ah, ça intéresse personne, ça.
Ah bah ça, je sais pas,
le
j'espère
débit
que ça
moyen...
intéresse...
Attends, à l'embouchure de l'estuaire?
Ouais, exactement.
Oh, aucune idée.
900.
Enfin, ouais, attends, je cherchais un. 930,
900, c'est ça. 931 mètres cubes par seconde. Par
D'accord.
contre, alors, moi qui suis pas du tout connaisseur, qu'est-ce que ça signifie, 931 mètres cubes par seconde?
C'est les mètres cubes qui passent à la seconde à un point donné, en fait.
Un point T.
Ouais.
Comment on le mesure, ce.
Ah, mais là, il fallait inviter un spécialiste de l'hydraulique, là.
Ah. Bon, tant pis, on n'aura pas la réponse à cette question. Troisième question. Combien de départements français contiennent dans leur nom le mot Loire?
Ah, en fait, c'est le test du brevet.
Non, ça pourrait. Attention, le mot Loire, il y a aussi le Loire, qui
oui,
est
oui,
une
un
rivière, un affluent d'ailleurs,
enfin,
un sous-affluent de...
parce ouais. qui se jette dans le Maine. Comme je connais quand même ma géographie un petit peu.
Un
qui
sous-affluent
après va se jeter
de la Loire.
Dans la Loire, ouais.
Du coup, je parle vraiment du mot Loire avec un E à la fin, donc le nom du fleuve. Est-ce que vous savez
le nombre de départements
qui ont le mot Loire dans leur nom?
Ouais, il faudrait que je les compte, là, mais ça va prendre un peu de temps.
Ah, il n'y en a pas tant que ça.
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Loire-et-Cher, ah, maintenant c'est le Loire-et-Cher, Indre-et-Loire, ça fait 3, la Loire, 4... le Loiret, non, c'est pas la Loire. Et ah, ben ça en fait 4.
Il en manque 2.
Il en manque 2.
Ouais, c'est 6.
Et ben le.
La Haute-Loire.
La Haute-Loire, mais ça j'oublie volontairement puisque tu es originaire de là-bas. Si vous m'aidez.
Oui, c'est vrai, du coup, moi je l'oublie pas pour le coup. Et surtout, la Saône-et-Loire.
La Saône-et-Loire.
La Saône-et-Loire, voilà, qui font 6 départements qui ont le nom du fleuve, ou en tout cas, oui, le nom du fleuve dans leur nom. Dernière question. Bon, vous voyez, vous n'étiez pas si mal sur cette question. Dernière question. Le 4 janvier 1994 est lancé un plan d'aménagement et de préservation de la Loire par le ministre de l'écologie de l'époque. Quel était-il?
Le ministre?
Ce ministre, oui, en question.
Ah, ça change souvent. À l'époque, ça devait être Barnier, non, c'est ça?
Bravo. Ouais, Michel c'est... Barnier, le gouvernement, c'était Balladur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce plan? En quoi il a consisté
Le plan Loire Grandeur Nature, c'était en fait des financements qui étaient débloqués justement pour gérer... gérer le fleuve, alors sous différents aspects, aussi bien l'entretien du fleuve avec le renforcement des digues et levées, enfin j'emploie toujours les deux termes, mais aussi et surtout à l'époque des actions en faveur de la biodiversité, donc ça permettait de débloquer des financements pour acheter pour les conservatoires, enfin pour de nombreuses associations et notamment les conservatoires du patrimoine naturel qui gèrent quand même une bonne partie maintenant des terrains en bord de Loire. Donc oui, c'était vraiment un plan intéressant à l'époque qui a permis de développer, même au niveau de l'éducation à l'environnement, il y avait des financements qui suivaient, ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui.
Bon, en tout cas, le quiz est terminé, donc c'était pas si catastrophique que ça.
Oui, ce que je disais tout à l'heure, hein, on a toujours à apprendre sur le fleuve, et puis
bah, en même temps, évidemment,
c'était vraiment pas des questions sur la faune et la flore. En fait.
Ah non, c'était. Ah, j'aime bien titiller parfois ouais. Les invités. Est-ce qu'on peut parler maintenant exclusivement finalement de la maison de la Loire? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous faisiez beaucoup de travail avec les enfants, les écoles, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça?
Oui, puisqu'on est donc une équipe de 5 salariés. Avec 3 personnes qui peuvent faire de l'animation. Alors moi, mon pof, on a des postes assez, comment dire, multitâches. Enfin, mon poste est quasiment à 90-100% sur l'animation. Et puis j'ai 2 collègues qui font de l'animation, enfin même une autre maintenant qui fait à 100%. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute des enseignants. Enfin donc on essaye de voir avec eux, de monter des projets pour découvrir le fleuve en rapport avec les programmes de l'éducation nationale. Donc ça, c'est une grosse activité qu'on a. Donc différentes thématiques. Bon, j'en ai déjà cité quelques-unes tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aurais oublié sur là aussi sur la microscopie de l'eau douce, on a une animation aussi où on prélève une goutte d'eau de Loire et on regarde puisqu'on a la chance d'avoir un petit laboratoire à la maison de la Loire avec équipé de microscopes et de caméras, enfin d'une caméra en tout cas, donc ce qui permet de voir aussi que dans une goutte d'eau de la Loire il y a du monde vivant et puis sinon donc les animations faune, flore qui se déclinent de différentes manières. Donc en fait ce qui, enfin moi si j'y suis encore, c'est que, enfin entre autres, c'est parce que voilà, c'est pas toujours la même animation qu'on ressort à chaque fois. On va l'adapter sur les objectifs des enseignants.
Alors il y a un chiffre sur votre site internet, vous avez fait en 2016 7508 animations et sorties au total. Est-ce que à quoi correspond ce chiffre?
Alors je vais avoir des chiffres. c'est ma collègue qui s'occupe de ça, mais c'est possible. Alors, enfin, ça prend en compte. Donc, c'est les groupes scolaires.
Voilà, ça...
C'est les groupes de privés, enfin de soit de comment ça s'appelle, de CE, de randonneurs qui réservent spécialement une animation pour eux. C'est les animations grand public qu'on retrouve dans le programme. Donc là, sur réservation à la carte. C'est les animations aussi sur les journées sur l'île de la Métairie, les partenariats avec le conseil départemental. C'est les animations sur des journées à thématique. Enfin, maintenant, la journée verte de Tours, ça n'existe plus, mais enfin, de la même manière. Donc voilà, sur des thématiques. Oui, ça fait quand même pas mal, mais bon, on est plusieurs personnes et. Ça permet de tourner aussi.
Ça fait en tout cas beaucoup d'animations à l'année. Vous faites aussi des observations de castors.
Oui.
C'est aussi dans le cadre du travail avec les enfants, les scolaires.
Ah, c'est plus compliqué avec les scolaires. Enfin, les castors, il y a différentes manières d'aborder le sujet. Avec les scolaires, ça va plutôt être au travers des traces, puisque l'école, c'est en journée. Et les castors sont plutôt visibles le soir ou la nuit ou le matin de bonne heure. Donc, par contre, ce qu'on peut retrouver plus facilement, c'est les arbres taillés, les empreintes, les crottes, les odeurs, et avec un petit diaporama en plus. Enfin, donc ça, on le propose comme ça avec les scolaires, et on peut les observer réellement avec le grand public plutôt au mois de mai, juin, juillet. Puisque c'est là que les journées sont les plus longues et on a de la lumière jusqu'à 22h, 23h. Donc à partir de 21h grosso modo, enfin ça dépend des familles de castors et des sites, on peut les observer pendant 1 ou 2 heures comme ça.
Le prochain événement, c'est le samedi 18 novembre. Expliquez-moi ce que c'est. C'est une sortie de terrain. Il y a un goûter aussi avec, évidemment. J'essaye de donner envie aux auditeurs gourmands. Ça s'appelle Secrets de Loire et Saveurs d'automne. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors là, c'est les sorties qui. Je vous disais que c'est jamais la même sortie, et là, c'est vraiment le cas aussi. Donc on va aller sur le site de Bon Désir, hein, qui est le site qui se trouve face à la Maison de la Loi. Et donc là, on prend des jumelles, une lunette d'observation, une petite sacoche avec plein d'éléments, et puis on va aller observer ce qu'on découvre au cours de la balade. Et suivant les participants, suivant le public aussi, ça va s'orienter plus oiseau, ça va s'orienter plus l'homme dans la Loire ou sur les plantes. Enfin, c'est vraiment des sorties qu'on va orienter par rapport à ce qu'on va voir le jour même et par rapport au public. Et puis pour continuer la discussion, et puis quand même on va sur le terrain, donc on dépense de l'énergie, et après on complète avec un petit goûter local, puisqu'on le prend chez notre voisine Biolinette. Donc voilà, c'est des produits locaux qu'on va déguster ensemble.